fête la Saint-Patrick.
Oui, c'est pas seulement du folklore, hein, c'est aussi de la diplomatie. Mais d'abord, on va parler, nous aussi, sport dans Accent d'Europe. Une fois n'est pas coutume.
Midi 10 sur la clé des ondes, vous écoutez le plat de résistance et comme chaque vendredi dans ce plat de résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Achaïra, c'est le rendez-vous mensuel de pollinisation libertaire de La Clé des Ondes.
Et on est parti.
Voilà, donc cette émission reste marquée, comme nous, par la guerre qui ne cesse d'endeuiller le monde dans lequel nous vivons, Ukraine, Palestine, Soudan. La raison et la liberté sont-elles aussi des victimes collatérales de la guerre et de la propagande de guerre? C'est ce que l'on vit en ce moment en France, avec un président qui en remet une couche envisageant l'envoi de troupes françaises pour combattre en Ukraine, au moment même où le Service National Universel, le SNU, essaie de se déployer dans tous les établissements scolaires. Nous apportons tout notre soutien à celles et ceux qui résistent à la guerre et à la propagande de guerre. Et tout de suite, nous lançons la chronique de la désobéissance, la chronique d'André Bernard.
Chronique de la désobéissance.
Insolente et radicale, et libre par la capacité naturelle et spontanée que possède Pinard Sélec de créer des liens avec le monde qui l'entoure, de créer des ponts entre les différents engagements féministes, antimilitaristes, écologistes, et avec les prostituées et les transsexuels, et avec les Kurdes et les Arméniennes, sans oublier les enfants des rues et les Roms. La renommée incontestable de cette femme, qui ne se considère que comme un tout petit point dans un tableau, est due à l'expérience de vie tout à fait exceptionnelle. Cette renommée ne doit pas faire oublier qu'elle est en danger, exposée à des menaces de mort qu'elle endure avec peur et courage. On doit à Guillaume Gamblin, avec une certaine urgence, dit-il, d'avoir réalisé des entretiens avec Pinard Sélec, dit-il aussi, au cas où. On n'est pas immortel, il pourra rester quelque chose de cette expérience. Née en 1971 à Istanbul d'une mère pharmacienne et d'un père avocat, « On ne nous a jamais parlé de Dieu à la maison », nous dit-elle. Dans un milieu militant, artistique et littéraire, où on ne se demandait pas, lors des rencontres, si on avait été en prison, mais dans quelle prison on était. Son père sera d'ailleurs détenu pendant 4 ans et demi, après le coup d'état militaire de 1980.
Alors, elle est sociologue aussi. Je ne voulais pas être quelque chose, je voulais faire quelque chose. C'est en enquêtant sur le mouvement armé kurde que Pinard deviendra sociologue, mais avec quelques réserves. Prison et torture. En 1998, des policiers la kidnappent pour qu'elle donne les noms des militants kurdes qu'elle a rencontrés, ce qu'elle refuse. Dénudée, les yeux bandés, elle sera torturée. Je ne mangeais pas, je ne buvais presque pas. Le plus grave, c'est quand on me suspendait à un mur, avec les mains tirées et collées dans le bas du dos, et tout craquait et se déchirait. Ma colonne vertébrale se brisait. Et puis, ce furent les électrochocs dans les oreilles, sur les seins, sur la tête. Moments douloureux sur lesquels Pinard ne souhaite pas que l'on s'attarde. Elle ne parlera pas et finira par être traînée en détention au milieu d'autres prisonnières politiques qui prendront soin d'elle. Elle est alors accusée de terrorisme en relation avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et condamnée à la prison à perpétuité en 2013. Après plusieurs acquittements, les tribunaux feront sans discontinuer appel. Et c'est sous la pression de ses proches qu'elle s'exile en 2009 en Allemagne, puis en France, dont elle obtiendra la nationalité.
Les enfants des rues. Pinard a 16 ans quand elle entre en contact avec un groupe d'adolescents qui mendient et se droguent. Plus tard, elle découvrira les squats de Paris, puis ceux de Berlin. Et comment il est possible de créer des choses dans les rues, nous dit-elle, et d'utiliser et d'occuper les rues différemment. Elle convaincra les jeunes de créer un atelier des artistes de rue. Travail de la terre, poterie, de vieux journaux sont trempés, malaxés, peints, ils deviennent des sculptures, des masques, des cendriers, etc. Et elle nous dit, dans ses ateliers, nous voulions créer une autre parole. Une troupe de théâtre itinérant est créée, de même qu'un petit journal.
Le féminisme. Si après la prise de pouvoir de Kemal Atatürk, l'expérience féministe émerge à la fin du XIXe siècle, la république kémaliste imposera cependant un cadrage militariste, patriarcal et hétéronormatif. La femme restera, dans la vie privée, totalement assujettie à la volonté de son père, de son mari et bien évidemment de son État. État avec un E majuscule, bien sûr. La gauche contestataire, de son côté, ne faisait que reproduire les rapports patriarcaux existants. Si le féminisme ne peut pas tout changer, on ne peut rien changer sans le féminisme. Telle est l'opinion de Pinard Sélec. Avec des militantes de toutes sortes, prostituées, journalistes, artistes, danseuses, elles décidèrent de créer à Margy, Liberté, une coopérative afin de lutter contre le patriarcat, lutter contre le patriarcat, c'est lutter contre tous les systèmes de domination. Écologiste, c'est la lecture de Murray Bookchin qui lui ouvre les yeux sur la dimension sociale et politique de l'écologie. La banalisation de l'esclavage des animaux ou l'occupation des forêts et des mers favorise l'esclavage, la colonisation, l'exploitation des humains. Pour autant, pas de priorité d'une lutte sur une autre, car les rapports de domination se nourrissent les uns les autres. Il s'agit d'intervenir là où les pieds se trouvent.
Antimilitariste et non-violente. Nous citons « J'ai très vite compris que quand tu es dans une organisation armée, tu ne peux jamais agir de manière démocratique et libertaire. Quand tu fais le choix des armes, l'autoritarisme, la hiérarchie et en même temps des relations extérieures un peu sombres et floues se mettent en place. » Fin de citation. Par ailleurs, à propos des militants du mouvement armé kurde, elle se posait entre autres questions « Mais quel est l'effet de cette violence et de ce mode d'organisation sur l'aspiration à la liberté qui les motive ?» Et elle se déclare surprise de constater que, contrairement à la Turquie, où l'antimilitarisme est né au sein de la mouvance libertaire, en France, la non-violence fait l'objet d'un rejet et parfois d'une animosité d'une partie importante du milieu libertaire. Dans cette chronique, André Bernard nous parlait du livre de Guillaume Gamblin, L'insolente dialogue avec Pinard Sélec, paru aux éditions Cambourakis et Revue Silence en 2019. À titre de rebond, un petit mot sur Guillaume Gamblin, qui avait fait le déplacement avec Pinard Sélec à Bordeaux en 2019 à l'escale du livre pour justement présenter ses dialogues et ils avaient présenté sur scène. Guillaume Gamblin est rédacteur de la revue Silence et il est militant de la non-violence et de l'écologie sociale. Bon, il vit à Lyon et il est l'auteur d'un livre, La force de l'autonomie. Gandhi, précurseur de la décroissance, point d'interrogation. Et avec Pierre Sommermeyer, du recueil Non-violence dans la révolution syrienne, paru aux éditions Libertaire et Silence en 2018. Cette revue Silence, dont on parle, effectivement, c'est une revue mensuelle indépendante qui est basée à Lyon, qui est publiée depuis 1982 et qui explore les alternatives concrètes et les chemins politiques vers la décroissance et l'écologie sociale, en cherchant à interroger les enjeux sociaux, féministes ou encore néocoloniaux de nos modes de vie. Le livre est paru aux éditions Cambourakis et Silence, on l'a dit. Cambourakis, alors Cambourakis Isabelle, qui est-elle? Eh bien, c'est une éditrice française qui a créé une collection de livres, collection Les Sorcières. Bon, c'est des éditions assez intéressantes qui, là, se propose de, nous l'avons dit déjà lors d'une précédente émission et pour notre livre, de revisiter l'orthographe et le système d'accord masculin-féminin. Et elle nous dit en avant-propos, Isabelle Cambourakis, que l'idée que le masculin représenterait l'universel est vivement critiquée par les féministes. C'est une forme de domination patriarcale dans la langue française. Et la collection Sorcières se veut un espace d'expérimentation de la langue. Les autorices et traductrices utilisent les règles d'écriture inclusive de leur choix et elles utilisent également le système d'accord avec le nom le plus proche. Voilà pour la profession de foi de cette collection, Les Sorcières. Parmi les titres, nous trouvons différents titres extrêmement alléchants. On ne peut qu'inviter nos auditorices à consulter sur Internet cette collection. Mais entre autres, on a relevé un titre, c'est « Devenir Rosie ». Alors ça nous parle de près. Hein. Rosie la Riveteuse. Voilà, la Riveteuse que l'on voit souvent, figure mythique, qui maintenant s'illustre dans les manifestations féministes ou autres, au moment des retraites.
Et bon, derrière la camionnette de la FSU.
Voilà, et nous espérons bien les revoir, donc avec leur bleu de travail, le turban à pois, et puis les chansons chorégraphiées avec les gants jaunes. Tout le monde se souvient d'eux, c'est la faute à Macron, entre autres. Alors donc, les éditions Cambourakis ont édité ce livre « Devenir Rosie ». Rosie la Riveteuse et la performance féministe du genre. Un autre livre aussi qui a attiré notre attention, mais on ne pourra pas en parler vraiment cette fois-ci, c'est « Des femmes contre les missiles ». Voilà, qui a fait l'objet d'un documentaire qui passait le 8 février à l'Athénée Libertaire. Peut-être que nous en donnerons écho lors d'une prochaine édition. Pinard, Selec. Qu'en dire ? Eh bien, énormément de choses, puisque on peut dire qu'il y a un sous-titre de ce livre qui dit que ce sont les mille vies de Pinard Selec, ces livres. D'abord, puisque bon, tout le monde sait qu'elle est sociologue, elle travaille maintenant à l'université de Nice. Elle a un poste d'enseignante, pérenne depuis 2022. Elle a publié des essais, entre autres « Devenir homme en rampant », qu'elle est venue présenter à Bordeaux il y a quelques années à la fac. Bon, c'était absolument remarquable.
Elle était passée aussi à l'Athénée Libertaire.
Aussi à l'Athénée Libertaire, absolument, on s'en souvient. Oh. On a même une photo avec... quelqu'un qui l'interviewe, qui a un pull rayé et te ressemble beaucoup, Rémi.
C'est étonnant, ouais.
Oui,
c'est étonnant.
Il me semble même que c'était toi.
Absolument. Non, mais c'était une belle rencontre parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur, mais qui est énorme. Elle est vraiment puissante. Oui. On sent qu'elle
est
généreuse. Elle est généreuse. Oui. Elle aime les gens. Et donc, de suite, ça vibre quand on rencontre. C'est pas que des écrits, c'est aussi l'action, c'est une certaine réalité, quoi.
Voilà. Oui, effectivement. Donc, elle a écrit des essais, des romans, des contes, des préfaces. Dont une préface à l'antimilitarisme en Turquie d'Aurélie Stern, dont on a déjà parlé lors d'une précédente chronique, et du livre de notre ami Floréal Romero, Agir ici maintenant. Voilà des... Et puis, bon, c'est comme disait Rémi, ces engagements multiples qui sont absolument extraordinaires, à Istanbul depuis l'âge de 16 ans, les enfants des rues, les squats, les ateliers d'accueil, les combats féministes, ses liens et son implication auprès des trans, des LGBTI, des prostituées. Bon, et puis des études sociales de proximité qu'elle a développées auprès des Kurdes, auprès des Arméniens. Tout son travail sur l'antimilitarisme, qui est absolument fondamental, et même auprès des femmes handicapées. Et puis, c'est tous ces réseaux qu'elle a su créer avec des points de solidarité, ces ateliers d'enfants des rues, mais également à Margy, dont nous avons parlé, la coopérative de réflexion, non mixte d'ailleurs, et une revue féministe du même nom. Elle a également organisé des marches de femmes avec des milliers de femmes qui ont convergé vers la capitale, vers Ankara et puis vers Istanbul. Et puis, elle a créé ensuite en France une plateforme d'écologie sociale. Enfin bon, évidemment, vraiment énormément de choses. Il faudrait parler aussi de son lien avec Ocalan, Puisque Chalanne, lorsqu'il a lu ses livres, il a demandé à ce qu'elle puisse, d'une manière ou d'une autre, intervenir de manière à promouvoir des actions qui seraient des actions non violentes. Donc, elle a, d'une certaine manière, aidé au virage du PKK. Et puis, bien sûr, le prix à payer, eh bien, c'est tous les procès qu'elle a eus, puisqu'en fait, à partir de son engagement auprès des Kurdes, elle a connu dès juillet 98 des ennuis, d'énormes problèmes à Istanbul. Elle a été arrêtée, emprisonnée, torturée, c'est ce que nous avons vu. Elle passait en procès, elle était acquittée en procès, et aussitôt le parquet faisait appel et de nouveau elle se retrouvait en procès. Bon, c'était vraiment une situation absolument inextricable. On peut parler d'acharnement, à tel point que au terme de son emprisonnement de 2 ans et demi et d'une certaine vie qu'elle a menée avec beaucoup de courage en créant des tas de choses et en créant tous ces réseaux de solidarité, eh bien, elle s'est résolue à l'exil parce que là, on menaçait pour le procès suivant de l'emprisonner à titre préventif. Donc voilà, là, elle est partie en Allemagne, puis en France.
Mais moi, je me souviens aussi dans ce qu'elle écrit, dans les récits qu'elle pose notamment sur la réalité de la prison. C'est très fort. C'est-à-dire qu'à la fois, elle se retrouve donc avec des centaines de femmes dans des prisons où elles sont les unes sur les autres et elle ne parle que des instants de solidarité, de fraternité, enfin de sororité entre ces femmes. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais de lutter.
Absolument. C'est pour ça, c'est les mille vies d'Épinard. C'est très, extrêmement difficile de les résumer et encore bravo, merci à Guillaume Gamblin d'avoir recueilli tous ces propos et d'en avoir fait un ouvrage parce que effectivement Pinar Sélek a toujours été menacée. Je me souviens quand elle était venue à Bordeaux à l'université, à un moment donné elle s'est arrêtée, elle a dit là je ne peux plus parce qu'il y a des présences indésirables dans l'amphithéâtre. Alors bon, ça s'est arrêté, on n'a pas compris, mais en fait c'était les services secrets turcs qui l'a suivi. Et elle a reçu encore des menaces de mort. Enfin bon, elle est persécutée, même maintenant, elle est persécutée. Et là, donc, elle est en attente d'un procès qui sera le cinquième, qui a été remis, c'est toujours des péripéties, parce que c'était au mois de septembre, ça a été remis, et maintenant ce sera au mois de juin. Voilà, au mois de juin, elle doit attendre de manière à savoir ce qu'il en est d'elle, mais à un moment donné, lors d'une décondamnation, c'était une condamnation à mort. Après, il y a une condamnation à perpétuité. Enfin, chaque fois, et sur un dossier parfaitement vide, parce que l'attentat dans le marché aux épices, en fait, il a été prouvé à chaque fois qu'en fait, elle n'y était pour rien, et que ce n'était pas un attentat, que c'était une fuite de gaz. Enfin bon, voilà. Mais ça ne fait rien. L'acharnement est là. Elle est là, mais son comité de soutien et ses comités de soutien sont là aussi.
Ils sont très mobilisés. Oui. Et d'ailleurs, on va dire même la filière du livre, que ce soit des éditeurs, des écrivains, sont très proches d'elle. Moi, à chaque fois, je suis assez impressionné par ces collectifs et à Bordeaux, ces gens qui sont très attentionnés au devenir de Pinar. En fait, cette générosité lui est rendue aussi par tous ces moments de ce mouvement de solidarité.
Voilà, donc pour nos auditories, il suffit de...
Oui, non, je disais qu'elle risque le...
C'était la prison...
L'extradition.
Ah oui, bon, ça avait été demandé aussi. Bon, parce qu'elle a la nationalité française maintenant.
Pour 24.
Oui. Ça a été demandé, mais pour l'instant, bon, c'est sans effet. Mais enfin, donc il suffit de tapoter Pinar Sélek sur Internet et bon, il y a toutes les informations sur ses combats et l'actualité. Voilà.
On passe un petit morceau de musique. Alors, c'est ça ? Allez, c'est parti.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, chair à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, chair à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, chair à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, chair à trottoir. Ça vieillit, et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, chair à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors, ça se fout sur la paille, chair à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, chair à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, chair à scalpel. Patron, t'as des lyogabales, des froids saisis, quand vous tomberez sous nos balles, chair à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, chair à macar.
Vous avez bien sûr reconnu Fille d'ouvrier, puisque c'est un air que nous passons très régulièrement. Il était interprété là par Michel Bernard. Donc, Fille d'ouvrier, j'y reviens, c'est donc une chanson qui a été écrite en 1887 par Jules Jouy, qui décrit la condition des ouvrières depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur mort, évoquant travaux pénibles, manque d'argent, viols, prostitution et déchéance finale. Michel Bernard, elle, donc l'interprète de cette version, se dit sensible à la chanson populaire et au thème du travail ouvrier et des luttes. Et notons qu'en 2001, donc c'est pas tout neuf, mais c'est intéressant, elle a créé un spectacle musical consacré à Louise Michel. Voilà. Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
Bonsoir à tous. Alors, tout de suite, le genre est une construction sociale dont la perception relève d'innombrables illusions. Ma thèse est que ces illusions sont à combattre et que ces... illusions sont pour la plupart, si ce n'est la totalité, connectées aux autres combats à mener. Voilà pourquoi, quand on en arrive parfois à dire de manière synthétisée qu'il faut abolir le genre. Phew, tout un programme. Mais bon, pas beaucoup de temps. Et non, je parle pas de la planète. Donc, je m'intéresse dans cette première partie à son lien avec la tradition, principalement. Le genre, c'est un phénomène sociologique. Une première approche, que trop de personnes conçoivent comme étant juste, est que le genre est synonyme de sexe biologique. Pas du tout. La grosse différence, c'est que le sexe biologique correspond, de manière par ailleurs pas si binaire que ça, à la différenciation sexuée des corps d'une espèce. Là où le genre correspond à l'identité profonde de la personne sur cette question de perception de sa propre identité. Que cela soit pour des raisons de comportements sociaux ou autres, comme je vais expliciter maintenant. En effet, au fur et à mesure du développement de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte et de l'adulte même, les codes explicites et implicites, tels que les règles à la cour de récré, les dynamiques sociales, etc., ainsi que les habitudes comportementales et vestimentaires, sont plus ou moins imposés selon l'époque, le pays, la famille et de manière large son environnement social. Plein de facteurs qui s'entrecroisent avec tant d'autres facteurs. Quand on parle de cet apprentissage des codes sociaux, ils dépendent notamment du contexte socio-économique. Au final, parmi ces éléments connectés, on peut penser facilement aux classes, au combat du féminisme, à la mort du capitalisme et même de la tolérance envers cette extrême droite si provocatrice. Parenthèse, quand on voit les horribles lois anti-trans qui passent dans certains États des États-Unis, quand on voit la politique ostensiblement absurde, voire inique, même racine que ennemie de Macron, la montée de l'extrême droite, que ce soit dans les pays relativement safe ou autre part, la montée en puissance des pays dans la politique envers les personnes trans, c'est tout aussi inique, l'inflation qui n'en finit pas, bref, on peut penser que l'espoir se perd. Mais ce n'est pas une raison. Le combat doit rester chaud. La flamme nous brûle encore, alors qu'elle brûle aussi les autres. Hein ? Maintenant, je vais revenir sur pourquoi j'ai dit plutôt « selon l'époque ». On est toujours sur cette idée que l'illusion entourant le genre peut provenir de l'histoire, avec un grand H, que cette histoire est « une », entre guillemets, et qu'il n'y a pas d'alternative. Bon, il y a quelques 8 générations à peu près, au XVIIIe siècle, eh bien, les hommes de la haute portaient des bas. Bizarre. Aujourd'hui, la plupart des hommes cis n'en portent pas. Serait-ce que la conservation de la tradition sociale s'illusionne en s'imaginant un passé idéalisé ? Et je prends ici ma casquette de droitard qui n'y connaît rien. Non, c'est la gauche qui a tort, toujours. Même si je ne le dirai jamais à voix haute. Bon, promis, j'arrête. Il y a plein d'autres exemples aussi. En Inde, ces personnes d'un troisième genre qui peuplent un village entier, les hijras. Les nombreuses ladyboys du quartier de Pattaya à Bangkok. Bref. Cette notion de genre, et surtout de binarité de genre, est certes partagée un peu partout, mais aussi remise en question un peu partout et depuis pas mal de temps. Les hijras existent depuis l'Antiquité. Ce n'est pas non plus une question de biologie. De un, le genre n'a rien à voir avec le sexe biologique d'une personne. De deux, même si c'était entre guillemets le cas, ce sexe biologique n'est pas non plus binaire. Vous voyez déjà les syndromes de Turner, de Klinefelter, donc quand on a par exemple un chromosome X0 ou XXY, les personnes intersexes, enfin bref, que ce soit sur le plan chromosomique, gonadique ou phénotypique, le sexe est beaucoup plus complexe que juste homme-femme. Mais l'illusion n'est pas seulement dans une idéalisation réfractaire de la culture. Elle est aussi dans l'idéalisation de toute la culture. L'image, avec un grand I, que ce soit le marketing ou les réseaux sociaux, on vend les aspects, les meilleurs aspects, sans parler des moins bons. On ne met plus au devant de la scène le factuel progrès technique. Et ce, même en science, il faut vendre son article. Hein. Ou l'endurance, la longévité d'une méthode. Mais uniquement, c'est bien fait à court terme. Oui, j'ai un corps parfait. Mais sous cet angle et cette lumière uniquement. Bref, toute cette illusion de l'image, toute cette capitalisation de l'image a un effet aussi sur les personnes trans. Certaines personnes trans, c'est-à-dire dont le genre n'est pas celui qui leur a été assigné à la naissance, éprouvent de la dysphorie de genre. C'est un écart, une inadaptation de leur corps avec leur identité profonde. Cela peut être des parties spécifiques ou la silhouette en général. À l'ère d'Instagram, c'est empiré par les mêmes phénomènes qui empirent la dysmorphie que beaucoup de personnes cis ressentent. On pense aux Instagram girls ou aux bodybuilders. Mais c'est tout à fait différent. Le mal-être, parfois extrême, produit, dans le cas de la dysphorie, est intrinsèquement lié au genre. Ce n'est pas une raison de baisser les bras. Nous nous battons pour faire éclater la vérité aux yeux des ignorants et des charlatans. Cela implique aussi de casser les stigmates des défauts. Tout n'est pas parfait, et rien n'est parfait, je dirais personnellement. Et je ne parle pas ici d'actions condamnables. Enfin, comme je l'ai peut-être déjà dit, si vous m'avez écouté quelques mois précédemment, la diversité est notre force, notre beauté et notre amour.
Alors, tout d'abord, tu prévoyais ce texte pour le mois de juin, où se déroulent les marches des fiertés, hein, partout
tout à fait.
En Europe. Voilà. Et comme en juin, tu seras en stage à l'étranger, si je me souviens bien.
Tout à fait.
Voilà. C'est bien, il n'est pas contrariant. Nous t'avons proposé de le diffuser en mars, le mois de mars étant notamment marqué par la journée pour la défense des droits des femmes. Les universitaires qui traitent du sujet du genre disent que le mouvement a débuté il y a 40 ans à partir des remises en cause formulées par les mouvements féministes. Est-ce que ce lien avec les revendications féministes te semble-t-il pertinent ?
Oui, tout à fait, il me semble pertinent. Non seulement il y a aussi cet aspect contestataire, cet aspect aussi de réalité refoulée, alors que ça soit aussi chez les victimes qui, suite à cette oppression, se remettent en question, malheureusement, remettent en question leur propre réalité, ce qui est triste. Mais au final, effectivement, tout à fait, et même aussi dans les combats actuels, je pense tout à fait que nombre de combats sont à faire ensemble, notamment entre donc le combat LGBTQ+ et les revendications féministes. Tout à fait. Je ne pense pas, malgré ce que peut-être certains diraient, je pense au TERF pour ceux qui connaissent le terme, qu'il faut exclure les personnes LGBT des revendications féministes du tout.
Ça serait bien que tu donnes la définition de TERF, tiens.
Alors, TERF, il me semble que c'est trans exclusive, je ne sais plus pour le R, féministe. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des... Alors, généralement, des femmes qui s'allient généralement aussi à la droite et à l'extrême droite et qui rejettent tout à fait les femmes trans dans leur combat.
Oui, c'est apparemment il y a un groupe qui sévit à Bordeaux. Hein, on les avait notamment remarqués, si je puis employer ce terme, quand il y a eu un soutien, je crois que c'était à Pessac ou à Mérignac, sur l'assassinat d'une femme par son mari ou son conjoint. Et effectivement, il y a eu un problème au moment du rassemblement en soutien parce que elles étaient là avec. Les mouvements habituels féministes. Je ne sais pas sous quel nom elles apparaissent, je l'ai oublié, mais effectivement, tu as raison, elles existent. Ouais. Alors, le deuxième point que j'avais envie de voir avec toi, ce n'est pas vraiment une question, mais tu vas me dire si tu as des réactions par rapport à ça ou pas. J'ai regardé un peu les études sur le genre. Les inégalités et les discriminations ne seront plus financées par la région Île-de-France. Ça, c'est une information. Telle est la volonté de la très droitière présidente LR, Valérie Pécresse. Parce qu'effectivement, traditionnellement, la région soutient des domaines d'intérêt majeurs en matière de recherche et le genre depuis 2006. Tout ça à l'initiative d'un élu vert, s'appelle Marc Lipinski, qui était convaincu de l'innovation de ce champ. Est-ce que déconstruire le genre est dangereux pour l'ordre patriarcal et l'hétéronormalité ? Et l'égalité peut-elle aussi mener à l'autodétermination, y compris en matière de sexe ?
Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, cette déconstruction permet tout à fait de repartir sur des bases saines. Ça remet un peu en question, effectivement, l'ordre patriarcal et l'hétéronormativité. Voire même beaucoup, puisque j'ai l'impression souvent qu'il y a une certaine peur de l'inconnu dans cette structure et que tout à fait cette liberté de genre, en fait, tout à fait, et leur fait très peur, entre guillemets. Et pour ce qui est de l'autodétermination et d'y compris en matière de sexe, je pense tout à fait, enfin, si je comprends bien le sens, que cela permet une plus grande liberté de l'individu de s'autodéterminer, si j'ai bien compris.
Mais les hiérarchies de genre s'articulent toujours en pratique à d'autres hiérarchies sociales. Les études de genre sont fondamentalement critiques. Ces savoirs dérangent, analyse la sociologue au CNRS, Laure Bérény, qui est également co-éditrice scientifique de l'encyclopédie. Elle dit encore, ils sont des outils puissants de déstabilisation des distinctions et hiérarchies qui apparaissent comme naturelles entre les hommes et les femmes, entre les hétéros et les homos. Est-ce bien ce que tu as voulu mettre en avant dans ton texte ?
Oui, je pense que c'est une des choses que j'ai mis en avant. Tout à fait, effectivement. Donc, continuer le combat, s'allier entre combats et tout à fait, du coup, s'entraider et voir que les domaines sur lesquels s'intéressent, et bien par exemple les personnes qui revendiquent du côté des LGBT arriveront peut-être aussi à certaines solutions ou idées qui peuvent être bénéfiques à des personnes qui revendiquent pour le féminisme ou pour l'égalité pour plein d'autres égalités. Donc si j'ai bien compris, il me semble que c'est tout à fait ce que j'ai voulu mettre en...
Donc c'est bien ce que j'avais compris en lisant ton texte, donc tout va bien. Alors après, je me suis amusée, si je puis dire, à regarder l'évolution de la définition du genre entre deux dictionnaires et deux époques. Donc le Quillet, le dictionnaire Quillet, édition 1948, et...
C'est l'Antiquité.
Faut pas dire ça.
Les dates de naissance de certains autour de la table.
Ah oui, non, mais... Bon.
Oui, mais les deux là-bas, non. le dictionnaire Quillet et l'autre, le dictionnaire Robert 2024. Donc là, effectivement, pas de remarque perfide de
non,
ta part.
Aucune.
Alors, revenons au Quillet. La première des il y a quatre points de définition qui sont présentés dans un certain ordre. Enfin, donc le premier, réunion d'espèces qui ont un ou plusieurs caractères communs, genre de plante, genre humain. Le deuxième point, manière d'être, de se conduire en société, bon genre, mauvais genre. Le troisième, partie, division servant à classer les ouvrages de l'esprit, genre littéraire. Et enfin, la dernière, forme des mots selon qu'ils représentent des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin, des animaux et des choses censées être de l'un ou de l'autre sexe. Donc ça, c'est le Quillet 1948. J'ai pas vu si Quillet avait évolué depuis dans ses définitions. J'ai pas creusé. Celui-là, on l'avait sur une étagère à la maison, donc ça tombait bien, c'était pratique. Le Robert, édition 2024, donc là, c'est du tout neuf, hein. Premier point, donc groupe d'êtres ou d'objets concrets ou abstraits présentant des caractères communs. Donc, on est en tout à fait concordance avec le premier point du Quillet. Le deuxième, construction sociale de l'identité sexuelle. Donc ça n'existait pas en 1948. Genre et sexe, identité de genre, genre auquel une personne s'identifie, homme, femme, les deux à la fois ou ni l'un ni l'autre. Troisième point, catégorie d'œuvres définie par la tradition, d'après le sujet, le ton, donc genre littéraire. Et le dernier, là aussi, catégorie grammaticale, suivant laquelle un nom est dit masculin, féminin ou neutre. Ça évoque des choses dans ton esprit. Tu as envie de rebondir ?
Oui, donc déjà effectivement on voit que donc le genre en question en tant que phénomène social ou construction sociale, il s'agit plus du quatrième point du dictionnaire Quillet ou alors tout à fait du deuxième point dans le cas du dictionnaire Robert de 2024.
Ah, c'est-à-dire c'est monté dans la hiérarchie.
Tout à fait aussi.
Donc, mauvais genre, bon genre, ça pourrait...
Ça peut aussi faire notion effectivement bon genre, mauvais genre, des hiérarchies.
C'est vrai. Ouais.
Donc effectivement, il faut alors j'ai regardé un peu ça effectivement pendant ma recherche. Il faut savoir donc le mot genre avec cette telle acceptation provient en fait d'une utilisation du mot gender en anglais. Alors par la première fois avec un sens non grammatical dans une publication scientifique américaine de 1955 par le psychologue et sexologue John Money. Dans un article, il introduit le concept de rôle de genre, gender role. Donc ça vient de Wikipédia. Hein. Vous tapez genre, désambiguation, vous récupérez la construction sociale et vous trouvez ça dans un des paragraphes. Tout à fait, en fait, effectivement, que... ici, il faut bien le différencier de l'aspect grammatical ou de l'aspect scientifique. Ça n'a rien à voir avec l'arbre phylogénétique ou quoi que ce soit. Il s'agit donc, comme j'en parlais, de l'identité profonde d'une personne.
Ok. Eh bien, merci. Et juste pour conclure sur ce point, même si c'est encore trop tôt pour vous donner le jour exact, mais le coup d'envoi de la Marche des Fiertés 2024 de Bordeaux, puisque donc c'était normalement le but pour présenter cette chronique, sera donc donné en juin, mais la date n'est pas fixée, mais on sait que ça se passera à 14h sur la place des Quinconces, avec un programme riche qui ira jusqu'à 23h, avec des concerts, des discours, spectacles et de nombreuses autres surprises. Et le parcours ira jusqu'au jardin botanique, donc rive droite. Voilà, nous vous en reparlerons bien sûr dans l'agenda de juin.
Sauvez Mouchard et les gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris soir. Les heureux meubles sont tremblants, la monnaie tourne. conseil de guerre. Et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça prend le gant, le manche, c'est mauvais jour. On la finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes avant de bouger. Valets de rois et d'empereurs, oui, mais on la finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque ça quand ont-ils le haut du pavé? Jusque ça quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça prend le gant, le manche, ces mauvais jours, on la finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront.
La semaine sanglante, elle a été écrite par Jean-Baptiste Clément et dénonce le massacre des communards par les Versaillais durant les derniers jours de la Commune. Elle est ici interprétée par Rosalie Dubois, chanteuse engagée, oubliée, quoique toujours vivante, mais elle est née en 1932. Le morceau est extrait d'un album appelé Chant de révolte, 1796-1935, un album où figurent notamment Ni Dieu ni Maître, l'International, Gloire au XVIIe. Excusez du peu quand même, hein.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires, diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
Vous écoutez La Clé des Ondes sur 90.10 et sur laclédesondes.fr. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Les femmes, les enfants d'abord, le tout arrive.
faire ta petite affaire. Tu te poses là en serpillière. Toujours pas ranger tes bagnoles. De caisses font un bruit de casserole. T'es branché dans le côté.
Écoutez La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau, sur le 90.10.